écrit le chapitre premier de Matthieu. Alors les gens disaient, mais il n'y aura personne. Mais oui, il était là. Mais quand on lit le chapitre premier de Matthieu, qu'est-ce qu'on se rend compte? Ce sont des généalogies. Hein. Il engendra, il engendra, il engendra. Alors une petite fille disait, au moins je sais ce qu'il est dit dans le chapitre premier de Matthieu, si on doit mettre un titre, je mets « Il engendra ». C'est une petite fille, elle avait compris. « Il engendra », c'est le titre qu'on donne au chapitre premier de Matthieu. Alors on sait de quoi il est question. Oui, mais qui est-ce qui a engendré? C'est tous des gens de l'Ancien Testament. Alors comment voulez-vous commencer la lecture du Nouveau Testament sans avoir lu aussi l'Ancien? Vous êtes toujours ramené dans l'Ancien sans ça. « Abraham, qui c'est ce mec-là » Oui, c'est un Parisien qui disait ça. Abraham, qui c'est ce mec? C'est que toutes les familles ne sont pas des familles chrétiennes où on donne toujours un nom biblique. De sorte qu'on entendait dans mon pays une femme, une mère de famille qui disait « Noé va dire à Enoch d'aller moucher Job ». Évidemment, tout le monde riait. Noé va dire à Enoch d'aller moucher Job. Il y avait des miracles. Faites aussi attention aux noms que vous donnez. Ils ont une signification. Puis n'appelez personne Eliab, parce qu'à l'école, on dira Eliab. Mais oui, c'est des choses vécues, ça. Faites attention de ne pas mettre, parce que vous, vous aimez un nom. Eliab, c'est un des fils de qui? D'Isaïe. C'était un frère de David qui le jalousait. Il y a des frères qui se jalousent, il y a des sœurs qui se jalousent, il y a tout ce que vous voulez dans la vie. Alors, maintenant, mes amis, ce matin, je vous ai lu donc le passage. Vous avez peut-être pesté un peu contre moi en disant, mais on l'avait lu. Mais c'est justement qu'il faut relire. C'est à méditer, repasser dans son cœur. Moi, quand j'ai lu toute l'Apocalypse, je me dis, ben, je devrais recommencer. Parce que maintenant que j'ai une idée de l'Apocalypse, il faut que je reprenne dans l'ensemble, n'est-ce pas? Et alors, on comprend de mieux en mieux. Alors, ce matin, nous avions cette question, qu'avons-nous appris au sujet du témoignage de Jésus dans ces deux chapitres? Eh bien, on pourrait élaborer là-dessus, mais je vous laisse vous-même chercher, trouver le témoignage de Jésus. Quand on le rend, quand on a ce témoignage, il peut nous apporter de la souffrance. C'est absolument vous mentir de dire, si vous acceptez Jésus-Christ, vous n'aurez plus de souffrance. C'est pas vrai. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ayez bon courage car j'ai vaincu le monde. Mais Jésus n'a jamais dit que le suivre ce serait une vie facile, que celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Jésus n'a pas dit que le chemin serait facile, mais il a dit que nous ne serions jamais seuls, jamais abandonnés, et qu'il nous apporterait, heure après heure, jour après jour, les délivrances dont nous avons besoin, mais il nous a invités à vivre au jour le jour, un jour à la fois, comme on chantait au Québec, hein, et comme on chante peut-être encore, ce fameux cantique « Un jour à la fois ». Le témoignage de Jésus peut nous amener des souffrances, mais aussi de grandes victoires. Et je vous ai dit qu'on peut trouver sept passages que vous trouverez vous-même au sujet de ce témoignage de Jésus. Chapitre 1, verset 2, c'est la parole de Dieu, le témoignage de Jésus. Chapitre 1, verset 9, on voit que Jean était à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus n'est jamais séparé de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le témoignage de Jésus. Et puis au chapitre 6, au verset 9, eh bien, on peut être égorgé parce qu'on a eu le témoignage de Jésus. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, il y a eu des martyrs. Mais au chapitre 12, on apprend que Satan a été vaincu par les croyants à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage des chrétiens. Et ce témoignage chrétien, c'est le témoignage de Jésus. C'est pas le témoignage du nom de votre église. Parce que là, on regarde votre église, on y voit tant de misère. Hein. Il vous faut cultiver le témoignage de Jésus. Et c'est ça qui sera la réputation de votre église. Mais si vous faites une propagande pour votre église, quel que soit le nom de cette dénomination, les gens vont regarder à la loupe cette dénomination et puis ils y verront tant de misère qu'ils se détourneront. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez pour que les gens qui entrent par la porte d'avant ne sortent pas finalement par la porte de derrière, vous connaissez l'histoire, eh bien ils sortiront quand même. C'est pas ça qu'il nous faut, c'est tout autre chose. Et ça m'afflige de voir qu'on peut écrire des choses pareilles. Mais enfin, ça c'est mon affaire. Eux l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Puis ceux qui gardent les commandements de Dieu, chapitre 12, verset 17, et qui ont le témoignage de Jésus, seront poursuivis par Satan, ça c'est vrai. Mais Satan est un ennemi vaincu. Et comment devons-nous le traiter? Ah, il ne faut pas s'en moquer, hein, parce qu'il existe. Même l'archange Michel n'a pas prononcé de propos injurieux contre Satan. Il a dit que l'Éternel te censure, n'est-ce pas? Mais vous avez le droit de lui dire, arrière de moi, Satan. Quand vous avez une pensée mauvaise, etc., vous savez bien d'où elle vient, arrière de moi, Satan. Et qu'est-ce qu'il fera? Il s'enfuira loin de vous. Mais n'essayez jamais de faire un corps à corps avec le diable, parce que vous serez dessous. Puis les deux épaules par terre, puis lui dessus. Ne combattez pas avec Satan vous-même, mais employez la force de Jésus. Arrière de moi, Satan. C'est comme ça qu'il a fait. Et il l'a vaincu. Et puis discernez si c'est Satan, car il peut se présenter à vous comme un ange de lumière. Puis vous savez, il sait citer la parole de Dieu, hein. Il la connaît par cœur aussi. Hein. Il sait citer la parole de Dieu, mais il la cite toujours à moitié. Il isole des versets, puis vous fait croire, c'est ça le chemin. C'est pourquoi il a dit, il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais l'issue est une voie de mort. Puis vous dites, mais pourtant j'avais une parole, j'avais reçu une parole, ou j'avais fait un rêve, puis voilà. Non. Laissez vos rêves de côté, laissez vos visions de côté, écoutez la parole. C'est la parole qu'il vous faut. Jésus a vaincu Satan au désert après 40 jours de jeûne en lui disant, il est écrit. Et nous n'avons pas de meilleure méthode que celle-là. Alors au chapitre 19, qui est le thème de notre retraite, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et l'ange lui dit, verset 10 toujours, je suis ton compagnon d'œuvre et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Alors la question qui se pose pour nous, est-ce que nous sommes de ceux qui ont le témoignage de Jésus? Je suis ton compagnon d'œuvre et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Parce que souvenez-vous des vierges folles, elles avaient l'apparence d'être comme les autres. Elles avaient le vêtement des vierges, elles avaient une lampe extérieurement de loin. Vous ne faites pas de différence entre les folles et les prudents, mais les unes avaient de l'huile, et les autres n'en avaient pas. Elles s'étaient toutes endormies, mais au milieu de la nuit, quand la voix se fait entendre, voici l'époux, sortez à sa rencontre, les unes s'aperçoivent que leurs lampes s'éteignent et demandent aux autres de donner de l'huile. Et peut-être que vous pensiez, vous aussi, vous pourriez donner de votre huile. Non. On ne peut pas nous-mêmes passer la vie à quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui donne la vie. C'est lui qui fait vivre. Nous pouvons aider, témoins. Alors, les vierges sages disent, allez vers ceux qui en vendent, nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nos lampes à nous s'éteignent. La vie éternelle, elle vient de celui qui la possède, et celui qui la possède, c'est Jésus. C'est en lui qu'est la vie, toute la parole nous le déclare. Alors voilà, je pense que vous pouvez méditer là-dessus, sur cette première question, sur le témoignage de Jésus à travers l'Apocalypse. Et ceux qui auront le témoignage de Jésus, ils régneront avec lui, ils auront souffert avec lui, mais ils régneront avec lui. Maintenant, quel est l'effet de la prophétie de ce livre? Quel effet la prophétie de ce livre devait-elle avoir sur nos cœurs? Eh bien, nous vous avons simplement dit que ça devrait être un effet d'édification, d'exhortation, de consolation. Au fond, le fruit de l'esprit devrait être pleinement manifesté en nous, parce que c'est ça le témoignage de Jésus, ce fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, cet ensemble de toutes les grâces qu'on a énumérées, il y en a 9, mais qui forment, c'est comme une grappe de raisin, qui forme le fruit de l'esprit. C'est l'ensemble de toutes les grâces qui donne aux croyants une personnalité attrayante dans laquelle le monde peut reconnaître le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, pas à côté de moi, en moi. Donc on est habité par le Seigneur, selon la promesse qu'il avait faite, que si nous gardons ses commandements, nous viendrons à lui, le Père et le Fils, et nous ferons notre demeure chez lui. C'est l'habitation de la Trinité tout entière. Vous l'avez vu ça. Avez-vous trouvé dans cette première lecture quelques clés pour comprendre les grandes lignes de la révélation? Nous avons souligné un verset qu'on cite beaucoup, le verset 19, qui nous donne une certaine compréhension des choses, des divisions qu'on peut trouver dans l'Apocalypse. Mais nous vous avons souligné qu'il nous faut posséder vraiment 5 clés. La clé qu'on appelle christologique, c'est-à-dire, ou christocentrique, toujours rechercher qui? La personne de Christ. Et alors, vous pouvez faire une étude, mais passionnante, en prenant un des papiers de notre ami Nankin, et puis mettre déjà, du chapitre 1er, tous les noms qui sont donnés à Jésus. Vous en trouverez. Et alors vous étudierez la personne de Jésus d'après les noms qui nous le font connaître. Les noms qui sont donnés à Jésus, l'alpha, l'oméga, le premier-né d'entre les morts, etc. Tous ces noms qui lui sont donnés. Donc, la clé christologique, avoir toujours Jésus devant nos yeux. Puis, il y a la clé historique et prophétique. Quand on lit l'Apocalypse, et spécialement les chapitres que vous avez lus, eh bien, il y a une interprétation historique. Les églises dont il est parlé, eh bien, elles ont existé. Alors, il faut connaître la situation dans laquelle elles se trouvaient. Donc, il y a une explication historique de ce temps de l'Église et des premières églises, d'Éphèse, où l'apôtre Paul est resté 3 ans. Vous avez ça dans le livre des Actes des Apôtres. mais en même temps, vous avez une ligne prophétique, historique et prophétique. Il est dit ce qui arriverait à ces églises jusqu'à la fin, pendant ce temps-ci. Il y aurait beaucoup à dire sur cette question de temps. Un de nos frères le faisait remarquer, et c'est vrai, n'est-ce pas ? Il y a les choses du passé, mais il y a les choses du temps présent. Et l'Église est encore dans le temps présent. Elle a une histoire passée, elle a une histoire présente, comme elle en aura une future. Alors donc, il y a une interprétation, une clé historique, et prophétique. Il faut replacer les églises dans le temps où elles étaient et puis voir ce que le Seigneur a voulu nous enseigner. Il y a une interprétation symbolique et pour vous donner le goût justement de trouver les symboles, j'ai justement un peu osé compliquer mes questions de cet après-midi pour que vous soyez convaincus que sans la connaissance de l'Ancien Testament, eh bien, quand il est question de symboles, vous n'y comprendrez pas grand-chose. Comprenez-vous ? Les symboles qui se trouvent dans l'Apocalypse sont ailleurs dans l'Écriture. Et nous n'avons pas le droit, c'est pour ça que je vous ai fait lire le dernier chapitre d'Apocalypse, de laisser courir notre imagination. L'arbre de vie, qu'est-ce que c'est ? Un pommier, un dattier, un prunier ? Qu'est-ce que c'est que l'arbre de vie ? Et le fruit de l'arbre de vie ? Alors, le symbolisme, on va le trouver dans l'Ancien Testament. Puis, il y a aussi l'interprétation apocalyptique. Le livre de l'Apocalypse, vous ne pouvez pas le nier, c'est un livre de jugement. Vous n'y trouvez pas l'expression de père avec ses enfants. On y trouve bien deux fois ou trois fois le mot père, mais c'est toujours le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas vus dans l'Apocalypse dans la relation d'enfant avec un père. On y est vu dans d'autres passages dans les Écritures, mais ce n'est pas cette relation que l'Apocalypse souligne. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui est aussi notre Père. C'est vrai, puisque si nous connaissons le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous apprenons que à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a été donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, Dieu est notre Père. Mais ce n'est pas le sujet de l'Apocalypse, ça, hein, que Dieu est notre Père. Il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui est-ce qui va régner ? C'est Jésus-Christ. Et ceux qui sont en lui. Mais il faut bien se souvenir de cela. Sans ça, on tombe dans l'erreur. Il faut être, comme dit saint Paul, de ceux qui savent découper droitement la parole de Dieu et qui ne font pas de la bouillabaisse dans l'Écriture. Alors, une cinquième clé, c'est ce qu'on appellera la clé, disons, évangélique, c'est-à-dire, on doit découvrir dans l'Apocalypse une bonne nouvelle. Il y a des jugements, c'est vrai, des jugements terribles, et on doit être averti de cela, parce que, oui ou non, est-ce qu'il y a des jugements écologiques ? Hein ? Dans les premiers sceaux, les sceaux, c'est des jugements, en quelque sorte, qu'on pourrait dire, écologiques, n'est-ce pas ? Qui se font dans la nature. Puis, avec les trompettes, c'est des jugements beaucoup plus personnels, il y a une gradation, mais vous êtes averti. Alors, ça devient de plus en plus des jugements publics, et après les famines, après les pestes, après toutes ces choses-là, après les révolutions, eh bien, le Seigneur parle plus fort par les trompettes, mais en vue de quoi ? Pourquoi ces avertissements ? Pour que les gens se réveille, pour que les gens se repentent. Et est-ce qu'ils se repentent? Non, ils ne se repentent pas. Alors, finalement, vous avez les fioles, c'est-à-dire les coupes, qui sont une aggravation de tous les jugements et qui mettent fin à la colère de Dieu. Parce que c'est un mot qu'on n'aime pas, mais la colère de Dieu vient sur le monde. Et le monde mûrit pour la colère. Mais le croyant, qui fait partie de l'Église, du corps de Christ, est-ce qu'il attend la colère? Non, il attend Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et c'est cela qui devient notre bienheureuse espérance. Et qu'il a été au travers de tous les temps, les martyrs ne vivaient pas dans l'attente de la mort, ils vivaient dans l'attente du retour de Jésus. Et Jésus leur avait parlé de telle manière qu'ils pouvaient l'attendre de leur vivant. De sorte qu'ils n'ont pas attendu la mort, même quand ils étaient jetés dans les arènes romaines, ils avaient peut-être espoir que Jésus allait venir, mais s'il ne venait pas, où allait-il? Auprès du Seigneur. Et ils savaient que les morts en Christ ressusciteraient premièrement, qu'ils participeraient aussi à l'enlèvement, même s'ils devaient passer par la mort. Et mon propre père, qui a été un homme qui a attendu le Seigneur toute sa vie et qui disait toujours qu'il n'attendait pas la mort, eh bien, il était peiné de voir qu'on essayait de le démolir. Et puis, oui, vous attendez le Seigneur, mais depuis le temps qu'on dit que le Seigneur va venir, hein, si vous mourrez avant. Alors, il était presque agacé. J'ai déjà dit cela. Hein, et il disait, pour mourir, je n'ai besoin de personne. Et il le disait tellement vertement, le Seigneur l'a pris au mot, il était tout seul, mais son visage, quand on l'a trouvé, était resplendissant. Il avait vu le Seigneur. Vous savez, attendre la mort, ce n'est pas une espérance, parce qu'on n'a pas été créé pour mourir, on n'a pas été créé pour les humiliations du sépulcre. Ce n'est pas ça. Mais attendre Jésus, se dire, il est possible, je ne dis pas que je serai là, mais il est possible que je fasse partie de cette génération qui sera appelée auprès du Seigneur sans passer par la mort, mais que je ne me glorifie pas et que je ne pense pas je passerai avant les morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants, nous serons vivants, n'est-ce pas? Il y aura des vivants à l'avenir du Seigneur qui demeureront, nous serons enlevés. Mais comment? Avec toutes nos infirmités? Non, par ce pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses en un instant, en un clin d'œil, nos corps corruptibles, nos corps mortels seront transformés en des corps immortels. Est-ce que c'est dans la Bible ou est-ce que c'est pas dans la Bible? Est-ce que c'est mon interprétation à moi ou bien est-ce que c'est l'Écriture qui dit cela? C'est l'Écriture qui dit. Et l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est le témoignage de Jésus. Je reviendrai. Si je m'en vais, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Je me souviens, j'avais 14 ans. En Italie, quand j'entendais cette prédication pendant une de mes convalescences, c'est quelque chose qui vous marque et qui vous délivre de la crainte de la mort. On sait où l'on va. Et quelqu'un m'a dit tout à l'heure, je l'ai dit à Maranatha l'autre jour, puisqu'on m'avait demandé, on aimerait entendre quelque chose au sujet d'une mort qui glorifie le Seigneur. Bien oui, je pourrais vous parler de la mère de mes enfants qui a été reprise en pleine convention chrétienne dans la ville de Morges en 1959, alors que personne ne s'y attendait, qu'il y avait 1500 personnes qui étaient réunies. Puis la voilà qui part vers le Seigneur. À 6 heures du matin, un souffle, elle est partie. C'est une mort qui a glorifié le Seigneur parce que j'ai été appelé à prêcher quand même dans cette situation dans ces circonstances. Et je vous promets que ce n'était pas quelque chose de facile, et je n'avais jamais cru que je devrais faire cela, et le Seigneur me l'a demandé. Mais l'autre jour, j'étais à Hall, et il y a des personnes de Hall hein, qui sont ici, et après une réunion, une jeune femme m'a demandé un entretien, et c'était une jeune veuve, je ne sais pas exactement son âge, tu le sais ? Oui, enfin, elle m'a dit, l'âge de son mari, il avait 36 ans, hein, et il est mort après une terrible maladie, mais c'était un enfant de Dieu, il avait 3 enfants, et ces petites, je l'ai dit, elles m'ont pris le cœur, les 3 petites étaient là à la réunion, une je crois elle a 5 ans, l'autre 7 ans et l'autre 9 ans, hein. Des petites blondes, de belles blondinettes, hein, à croquer. Et voilà que cette femme me demande un entretien, elle me dit il y a 2 mois qu'elle a perdu son mari et qu'elle est... Elle passe par une phase où elle sent la solitude, alors je lui rappelle les promesses de Dieu pour les veuves. Et elle me dit, bien justement, il y a une sœur qui voulait me donner ce message que j'avais écrit pour les veuves, puis elle ne le trouvait pas. Et puis moi, j'ai été dans une librairie et on me l'a donné, je l'ai trouvé. Hein. Et c'est comme ça qu'elle savait que nous aurions une réunion. Mais alors, elle m'a raconté les derniers moments de son mari, qui a réuni ses enfants et qui leur a parlé du séjour où lui allait se rendre. Mais d'une façon naturelle. Et c'est cela que nous devrions pouvoir. Nos enfants devraient savoir que si nous allons les quitter, nous savons où nous allons. Et moi, ce qui m'a bouleversé, c'est que cette femme m'a dit, il a dit à ma petite de 9 ans, que ce qu'il aimerait, c'est que à son enterrement, quand on mettrait le cercueil dans la fosse, elle prenne sa Bible et que devant tous, elle lise quel psaume ? Le psaume 23. Et j'ai bien dit oui, papa. Et à haute intelligible voix, cette petite est allée sur le cimetière et devant tous a lu, sans faiblir, le psaume 23. Moi, je trouve ça c'est merveilleux. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Une petite de 9 ans qui peut dire cela à cette foule qui est rassemblée aux obsèques de son père. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. On y était là, hein? Car ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me rassurent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Il n'y a pas de murmure. Tu ne trouves pas que c'est merveilleux? Voilà des morts qui glorifient le Seigneur. Mais ces morts qui glorifient le Seigneur, c'est un homme qui a parlé à ses enfants. Pour lui, le ciel, ce n'était pas vague. Il savait où il allait. Et le ciel, pour lui, c'était qui ? C'était Jésus. Quand on nous dit le ciel, qu'est-ce que c'est ? Le ciel, c'est quelqu'un. Le ciel, c'est Jésus. Et quelqu'un a dit que si Jésus était en enfer, l'enfer serait le ciel. Et c'est vrai, ça. Hein? C'est la présence de Jésus qui fait le bonheur du ciel. Oui, la grâce et la bonté m'accompagneront quelques jours dans ma vie, quelques petits moments dans les réunions, dans une retraite comme celle-là. Non. Tous les jours de ma vie, la retraite, elle va prendre fin, mais la grâce du Seigneur vous accompagnera tous les jours de votre vie, etc. Vous connaissez ce psaume qu'on a appris dans notre enfance et que l'on entend encore réciter sur les lèvres d'un mourant. Ces dernières paroles, puis c'est beau pouvoir rendre ce témoignage. C'est la parole de Dieu, mes amis. Croyez-la. Alors, donc il y a une interprétation évangélique de l'Apocalypse, parce que c'est toujours parlé des béatitudes. Il y en a 7. Je ne vais pas les lire maintenant, parce qu'on me dirait, vous évitez vos questions difficiles. Alors, on y arrive. Mais on va prier.
Dieu notre Père, tu sais que nous n'avons aucune capacité en nous-mêmes, mais nous croyons éperdument que toi tu sais tout, tu peux tout. Si nous ne savons rien, si nous ne pouvons rien, toi tu sais tout et peux tout. Et notre capacité vient de Dieu quand nous nous confions en lui. Alors, donne-nous grâce pour éclairer notre intelligence, pour illuminer notre intelligence. Tu sais que Satan voudrait toujours nous obscurcir l'intelligence. Toi, tu voudrais nous éclairer notre intelligence. Donne-nous aussi une conscience qui n'est pas cautérisée, mais une conscience sensible, une conscience qui réagit à ta parole et qui se laisse convaincre. Afin que nous n'ayons pas des opinions seulement, même de grands commentateurs bibliques, mais que nous ayons les convictions de Jésus. Et puis, Seigneur Jésus, nous croyons que tu veux vraiment aussi parler à nos cœurs. Parce qu'il n'est pas question que nous connaissions seulement la parole, mais il est question que nous connaissions les besoins des cœurs. Parce qu'une connaissance biblique, sans connaissance du cœur humain, c'est une lettre qui tue, alors que nous voudrions une connaissance qui nous fasse vivre. Que ces textes soient tous vivants pour nous, et que quand nous prononçons une parole, ce soit vraiment une parole de grâce, une parole qui communique la grâce. Si elle est rejetée, ce n'est pas nous qui jugeons, c'est la parole qui jugera au dernier jour. Garde-nous donc dans ta paix et inspire-nous dans ton amour. En Jésus. Amen. Alors, vous avez lu les chapitres 2 et 3 qui sont l'histoire de ces sept églises d'Asie. C'est évident que nous n'avons pu vous donner qu'une ébauche. Alors, après avoir contemplé Jésus, au chapitre 1er, là il faut y revenir à ce chapitre 1er, et voir Jésus qui n'est plus simplement le Jésus des routes de Palestine, des routes d'Israël, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, prêchant la bonne nouvelle, soit sur la montagne, soit dans les vallées. Mais non plus seulement le Jésus arrêté à Gethsémané, le Jésus crucifié à Golgotha après avoir été flagellé à Jérusalem. Non plus seulement le Jésus ressuscité qui se montre à Madeleine, qui se montre à l'apôtre Pierre et aux disciples qui pêchent avec lui un certain matin, qui leur prépare à dîner, le Jésus cuisinier. Vous savez que Jésus ressuscité a fait la cuisine? Il a cuit du poisson pour ses disciples qui avaient travaillé toute la nuit. C'est beau. Le Seigneur mettait la main à tout, même ressuscité. Et dans la gloire, il est dit que, se levant de table, il nous servira. Il gardera ce caractère de serviteur, juste dans la gloire. C'est quelque chose de fantastique. Et nous, nous en avons assez de servir. Vous croyez? Je me disais en faisant ma petite promenade là, pour respirer un peu de bon air, je me disais, mais au fond, est-ce qu'on continue ces rencontres? Quel intérêt est-ce que j'ai à que ces rencontres se continuent? J'en ai aucun. Sinon, si c'est toi, Seigneur, qui le veux, je vais être disponible. Mais c'est toi qui le sais. Mais j'ai aucun intérêt, ce n'est pas pour moi. Alors, si cela répond à un besoin, oui, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, je me laisse faire. Mais si tu ne veux pas, je sais que je ne suis pas indispensable. Alors, nous avons contemplé Jésus. Jésus, dans le premier chapitre, qui nous apparaît dont cette gloire que le monde connaîtra bientôt.
car la pensée de Dieu, qui est la vérité à l'égard de toutes choses, c'est d'établir Jésus, le vrai homme, le second Adam, comme chef de toute la création. Il est venu pour sauver les pécheurs, mais maintenant il reviendra pour établir son règne. Mais ce règne doit déjà commencer dans vos cœurs. Alors vous l'avez contemplé, j'espère que vous le contemplerez encore, et que vous comprendrez que c'est Jésus qui vient pour juger. Et il est toujours dit dans toute l'Écriture que le jugement de Dieu, il commence par quoi? Par sa maison. C'est pourquoi il y a l'histoire de l'Église en premier. Et dans cette histoire de l'Église, eh bien, il nous est montré que toutes ces églises qui avaient eu un commencement magnifique, regardez Actes chapitre 2, tous ceux qui ont cru après la Pentecôte, hein, ils étaient un cœur et une âme, il n'y avait pas de division. L'Église était vraiment catholique, c'est-à-dire universelle. C'est le sens du mot catholique. Mais elle n'était pas encore romaine, elle est devenue romaine, ce qui est tout autre chose. Mais l'Église était vraiment catholique, dans le sens que elle, tous ceux qui croyaient au Seigneur Jésus en faisaient partie. Alors, il y a eu cette Église de Jérusalem, où on était tellement centré sur la personne du Seigneur. Combien de fois par an est-ce qu'on prenait la scène à Jérusalem? Tous les jours, hein. On disait pas, oh, c'est dangereux de prendre la Sainte Seine trop souvent. Hein? Trois fois par année, aux grandes fêtes, ça suffit. Et puis, oh, peut-être une fois par mois, peut-être tous les 15 jours, peut-être une fois par semaine. Alors, c'est à ça qu'ils en sont arrivés. Si vous lisez l'Écriture, ça est devenu la scène dominicale, parce qu'il y avait des abus quand on la prenait dans les maisons. Alors, ça est devenu la scène dominicale. Enfin, je n'élabore pas là-dessus. Mais enfin, se souvenir du Seigneur. Et j'espère que vous vous réjouissez que demain, si Dieu le permet, on pourra terminer avec la fraction du pain, dans la simplicité apostolique, qui sera la manifestation de notre communion individuelle avec le Seigneur, communion verticale, mais aussi communion horizontale, les uns avec les autres. C'est pourquoi il faut qu'on ait l'esprit de pardon et que l'on se soit pardonné si on a offensé notre frère ou notre sœur, qu'on soit libre à son égard. Sinon, nous buvons et nous mangeons un jugement contre nous-mêmes. Et pour moi, je peux vous dire que la fraction du pain, la Sainte Seine, c'était la bénédiction de ma vie. Et c'est ce qui m'a gardé le plus du péché dans ma jeunesse. Ça ne veut pas dire que j'ai pas péché, hein. Mais la pensée que depuis l'âge de 14 ans, je m'approchais de la table du Seigneur avec des frères et des sœurs, eh bien je me disais, tu ne peux pas te souvenir du Seigneur si dans la semaine, tu as fait les 100 coups. Et il n'y a pas même besoin de faire les 100 coups. Un coup, ça suffit. Et vous savez, un coup, ça enlève la communion. Alors, réglons cette question. Mais ne disons pas, oh ben, je ne peux pas prendre la scène aujourd'hui, je ne viendrai pas au culte. C'est comme ça que les gens s'arrangent. Hein. Puis ils disent, oh ben, après, ça ira mieux. Et puis voilà, on prolonge. Il y en a un qui m'a dit, moi, je fais une année sabbatique au sujet de la scène. Ils prennent les textes bibliques d'une année sabbatique. Tu vas t'éloigner. Et il s'est éloigné. Vous savez, on ne nous raconte pas des bobards. Hein. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, on ne fait pas une année sabbatique. Parce qu'on s'aillera mieux dans cette église. Bien. Où est le support? Il y a la souffrance. Quand on est membre d'un corps, si un membre souffre, tous les autres souffrent. Mais s'il y a de la souffrance, s'il y a des misères, bien on s'en juge d'abord les nôtres misères, et puis on prie pour les autres. Puis on demande au Seigneur qui nous donne de savoir nous supporter aussi
les uns les autres. Alors, deuxième question. La première. Après avoir contemplé Jésus dans le chapitre premier, peut-on croire son témoignage au sujet des sept églises? Et vous croyez que ce qu'il a dit prophétiquement au sujet des sept églises est vrai? Qu'est-ce qu'il a dit? Que toutes ces églises allaient s'améliorer? Non. Il a montré en Éphèse une église qui devrait se souvenir d'où elle était tombée. Donc, même du temps des apôtres, il y avait déjà des clins dans l'église. Tout était en germe dans l'église primitive. J'ai fait une fois une réunion, justement, sur les lumières et les ombres de l'église primitive. On figure que dans l'église primitive, tout était parfait. Mais c'est pas vrai. Ça n'est pas resté comme dans le chapitre 4, où chacun partageait avec les autres, puis c'était encore volontaire, cela. Il y a eu tout de suite Ananias et Saphira. Le mensonge dans l'église. On a voulu imiter quelqu'un qui avait beaucoup de foi, Barnabas, et on a voulu faire un don qui serait semblable, et on a menti à qui? Au Saint-Esprit. Il y a eu des troubles dans l'église au sujet du racisme dans le chapitre 6 des Actes. Vous avez toutes les misères que nous constatons dans nos églises d'aujourd'hui, vous les avez déjà dans l'histoire de la première église, de l'église du premier siècle et dans les communautés du premier siècle. Si vous lisez l'histoire des Corinthiens, vous voyez que c'était des gens qui étaient finalement charnels tout en prétendant avoir tous les dons de l'esprit, se glorifiant d'avoir les dons de l'esprit comme si un don c'était une décoration. On porte pas un don comme une décoration. Et puis quand on a un don, il n'y a pas besoin de le dire. On le voit. Comprenez-vous? Il n'y a pas besoin de se vanter d'avoir un don. Si vous avez un don, tout le monde en bénéficie. Vous êtes des dons pour moi et je suis un don pour vous, puis c'est tout. Mais on ne parle pas des dons, on parle de qui? Du donateur. Les dons ont leur importance, ils sont donnés en vue de l'édification du corps de Christ, mais pas pour la glorification d'un homme. Nous comprenons bien cela. Ça sera notre sujet de novembre, si Dieu le veut. N'est-ce pas? La prophétie, le don de prophétie dans l'Église, actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de troubles à ce sujet. Alors, nous pouvons croire que dans cette histoire de cette église, et ça me frappe beaucoup parce que les auteurs catholiques, depuis longtemps aussi, en viennent déjà à voir, non pas simplement des églises isolées, mais le choix des sept églises, comme c'est toujours le chiffre 7, n'est-ce pas, qui nous est donné, le choix des sept églises, c'est penser que nous avons là comme un résumé de toute l'histoire de l'église jusqu'à la fin. Et comment finit-elle l'église? Avec la Odyssée. Tiède, mais finalement, ce qui est appelé église, là, elle est vomie de la bouche du Seigneur. Alors vous prendrez un autre texte en disant, mais il est dit que les portes du Hadès, le séjour des morts, ne prévaudront point contre l'église, comme si c'était l'église qui allait établir le royaume. Est-ce que c'est cela que nous dit l'écriture? Toute l'écriture. Est-ce que le royaume sera établi par l'église? Il sera établi par qui? Par le Seigneur de l'église. Avec son église. Mais attention à cela. Et l'apôtre Paul dit, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, etc. Bon. Donc, le déclin de l'église est envisagé. Et vous avez remarqué qu'il n'y a que deux églises qui ne reçoivent pas de blâme. C'est laquelle? Smyrne, l'église de la persécution, et puis Philadelphie, avant la Odyssée, une église qui n'a pas beaucoup de force, qui ne peut pas se glorifier d'être puissante, ou même d'être la plus nombreuse. Parce que si c'est cela qui vous conduit à savoir quelle est la vraie église, si c'est la plus nombreuse, vous direz c'est homme. Comprenez-vous? La plus nombreuse. ou la plus ancienne. Ce n'est pas cela qui compte. Le Seigneur a dit où il manifesterait sa présence, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et j'ai lu une lettre d'un prêtre catholique disant que au Vietnam, on avait retrouvé par la persécution après Dien Bien Phu les bases de la vraie Église. Quand on ne pouvait plus se réunir dans des temples, les temples étaient rasés, on enlevait tout cela, mais les croyants se réunissaient entre eux. Sans avoir lu les hommes de réveil, les livres des hommes de réveil du siècle dernier, dont nous avons beaucoup reçu, eh bien, ces gens là-bas, dans cette situation, le Seigneur était là et ils ont compris. Et en Chine aussi, pendant bien longtemps, quand ils ne pouvaient plus se réunir, ils rompaient le pain à table dans leur maison. Il y a eu un résidu qui s'est maintenu au travers de tout. Mais ce qui compte, c'est pas la puissance, c'est pas la force. Aujourd'hui, vous n'entendez que cela. Hein. Il faut de la puissance, il faut de la vie. Et qu'est-ce que c'est que la vie? Pour beaucoup, c'est du bruit. Et plus vous danserez, plus vous sauterez. J'étais pendant 3 ans président, sans vouloir, de l'Union pastorale du Québec. J'ai visité donc toutes les églises. Bien, je vous promets que quelquefois, dans certaines églises, quand ils chantaient ou qu'ils avaient de tels mouvements, j'avais mal de mer sur l'estrade. Parce que tout le monde se balançait avec une telle vigueur que je me croyais sur un bateau et que j'avais presque envie de vomir. Ça me prenait. Alors, à force de chanter des cantiques, alors oui, comme je l'ai dit quelquefois, n'est-ce pas, ben, on part comme une fusée. Puis voilà qu'on n'arrive pas à se mettre sur son orbite, puis on retombe sans parachute. Et là, on fait des dégâts. Parce que quand vous chantez tout le temps le même petit cœur, vous avez plus qu'on dit. Puis vous vous déconnectez, plop. Puis vous parlerez en langue, peut-être. Que sais-je encore? Et j'y crois pourtant, un vrai parler en langue. Mais attention, on ne fabrique pas les choses. Il n'y a pas de fabrication avec le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est et c'est un Dieu d'ordre. Je me disais en regardant les tombes là, de toutes ces petites sœurs là, qui sont ensevelies, il y avait un ordre dans le cimetière, hein, quelque chose qui m'a impressionné. Je me suis dit, ils ont de l'ordre jusque dans le cimetière. Mais nous, des fois, dans nos cultes, c'est sans ordre. C'est la foire. Alors, c'est pas le bruit que le Seigneur aime. Il parle dans le silence. Et alors il y a une édification, et quand on entend une parole, bien oui, on est édifié, ceux qui écoutent dans le silence, d'abord ils la comprennent. Alors si vous priez dans une église, vous êtes la voix de l'église, alors tâchez de bien articuler vos mots, ne parlez pas dans votre barbe, même si vous êtes rasé, parlez distinctement, vous êtes le porteur de la prière de l'église. Et alors, qu'est-ce qu'on pourra dire? Amen. Et ne faites pas de longues prières. Parce qu'alors, vous prenez toute la place. N'est-ce pas? Et puis, votre amen, c'est stop. C'est ok. Ah, enfin, il en a fini. N'est-ce pas? Et, voilà, mais voilà, toutes les pensées qui peuvent nous... On ne sait plus ce qu'il dit. Mais lui, alors... Il peut peut-être avoir une voix très onctueuse, mais c'est pas cela, l'adoration. C'est un cœur qui déborde. En quelques mots, on dit au Seigneur ce que l'on ressent, ce qu'on a découvert de lui dans la semaine. Alors, je vous laisserai voir donc toute cette histoire de cette église. Mais ce que je voulais souligner surtout, c'est que si vous voulez avoir la clé du symbolisme, vous devez chercher cela dans l'Ancien Testament. Alors, on arrive
Donc, la question du déclin des communautés, c'est le témoignage de Jésus. Il l'a dit. Alors, il l'a dit. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il a parlé du refroidissement de l'amour, hein, qu'à la fin, chapitre 24 de Matthieu, parce que l'iniquité prévaudra, hein, ira en augmentant, l'amour de plusieurs se refroidira. Alors, comme tout le monde sait comme cela, eh bien, nous non plus, on n'a plus cet amour qui est prêt à souffrir pour le Seigneur. Tout le monde le fait, je le fais aussi, tout en étant un bon chrétien, une bonne poire. Bon. Mais oui, vous connaissez les bons chrétiens. Ce sont des poires. C'est une sorte de poire. Si vous voulez des renseignements, demandez à Pierre-Yves d'Agenais. Il nous l'avait sorti très bien. C'est pour lui montrer qu'on reçoit aussi. Alors pourquoi peut-on dire que l'église d'Éphèse nous ramène au livre de la Genèse? J'ai pensé vous inciter à cela. Parce que qu'est-ce qu'il est dit dans l'église d'Éphèse? Il est parlé de quoi dans cette église? Au sujet des vainqueurs. Donc, souviens-toi d'où tu es. Ça nous ramène aussi à la Genèse. Vous pouvez voir Adam et Ève, qui étaient avec le Seigneur, qui recevaient les directions du Seigneur, puis ils sont tombés, n'est-ce pas? La chute a eu lieu. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden? Il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin. Et est-ce que Adam avait reçu l'interdiction de prendre à l'arbre de vie? Non. À l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas lui qui devait choisir. Il devait obéir et non pas choisir. Mais il pouvait manger de fruits de l'arbre de vie. Et qu'est-ce qui lui serait arrivé? Il aurait vécu éternellement. L'homme n'était pas créé pour mourir. Mais, ayant péché, il a rompu avec Dieu. Alors, le chemin de l'arbre de vie lui a été fermé, parce que la pire des catastrophes, ce serait de vivre éternellement dans un état de péché. La mort est une bénédiction, en quelque sorte, seulement à cause de la chute. Comprenez-vous? On a une fin à nos tourments, à nos souffrances, parce qu'on sait qu'il y a une vie par-delà la mort. Mais ce n'était pas là la pensée de Dieu. Alors, il y avait donc l'arbre de vie. Mais vous voyez que l'arbre de vie, c'est la personne du Seigneur et qui est mise en avant. Alors, vous avez cela dans le livre de la Genèse. Je lis Apocalypse 2. Quel verset où vous avez l'arbre de vie? Verset 7. Hein? Que celui qui a des oreilles, vous en avez, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, donc cet individuel, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, que nous retrouvons dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Alors, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez avoir une connaissance des symboles, l'arbre de vie, c'est la personne du Seigneur, et vous l'avez déjà dans la Genèse. Maintenant, Smyrne. Smyrne, vous l'avez lu, c'est une église qui est persécutée. C'est dans le temps où vivait Jean, l'église était vraiment persécutée. Et elle nous montre ce qui se passe dans une église où il y a la persécution. La persécution n'a jamais éteint l'église. La persécution a toujours été une semence. Et c'est dans un temps de persécution que l'église s'est souvent réveillée. Une église persécutée est habituellement une église vivante. Tandis qu'une église où c'est trop facile, c'est une église qui s'endort et qui s'ennuie et qui, pour ne plus s'ennuyer, demande au monde d'entrer chez elle et amène dans l'église tous les principes du monde. Tiens, ça, ça réussit dans le monde, ça va réussir aussi chez nous. Et puis si on fait, si on ressemble davantage au monde, les gens du monde qui aiment ces choses, ils les trouveront chez nous, puis nous pourrons les garder. Vous voulez garder ça? Est-ce que c'est vous qui gardez les âmes? Est-ce qu'il n'y a pas un berger? Alors, vous voulez augmenter? Et pour pouvoir augmenter votre monde, alors, vous voulez faire des concessions pour que les gens du monde se sentent à l'aise? Alors, il faut introduire toute espèce de musique, toutes sortes de choses, pour les garder, toutes sortes d'activités qui n'ont rien à faire avec le Saint-Esprit dont on parle pourtant. Alors, l'Église persécutée, c'est Smyrne. Et quand je lis l'ensemble de l'Écriture dans Israël, je vois, au fond, que dans toute cette histoire d'Israël, ce peuple qui a été choisi a dû passer par une terrible oppression. Une Église persécutée, c'est une Église opprimée. Et le peuple d'Israël, avant d'être vraiment une nation, a dû séjourner où? En Égypte. Pendant combien de temps? 400 ans. Elle a été formée dans le creuset de l'Égypte. Je connais, verset 9, ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Quand le Seigneur apparaît à Moïse, et lui dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple. J'ai entendu et je suis descendu. Ça, c'est l'Exode. Et alors, si vous lisez l'Exode, vous allez beaucoup mieux comprendre. Et les calomnies de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, etc. Il y aurait bien d'autres choses à dire. Mais ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Qu'est-ce qu'ils ont connu en Égypte? Les 10 plaies. Et vous pourriez élaborer aussi là-dessus, mais c'est l'Église persécutée. Mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et vous savez comment Dieu a suscité Moïse, un sauveur. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Maintenant, nous passons à l'église de Pergame. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. Et c'est toujours le Seigneur qui parle. Je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan habite, ou à Satan, à sa demeure. Et où a-t-il manifesté qu'il avait sa demeure, Satan, quand Jésus était sur la terre? Dans le monde, mais aussi dans le désert. N'est-ce pas? Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens qui sont attachés à quoi? À la doctrine de Balaam. Qui c'est Balaam? Non? C'est un vrai Balaam. C'est un prophète. Mais où lisez-vous son histoire? Dans les nombres. Et c'est dans les nombres qu'on a toute l'histoire de Balaam. Un roi et qui vient louer Balaam, prophète, en lui donnant de l'argent pour qu'il maudisse Israël. C'est donc là la traversée du désert. Et en lisant le livre des Nombres, c'est pas simplement l'histoire de Balaam que vous trouverez, mais vous comprendrez ce que ça veut dire ici dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? La doctrine de Balaam, qu'est-ce qu'il a? Il ne pouvait pas maudire ce que Dieu avait béni. Et quand il a vu qu'il ne pouvait pas faire de mal, mais il voulait quand même retirer l'argent que Balak lui avait promis, il a osé suggérer à Balak de faire venir les filles de Madian pour qu'elles couchent avec qui? avec les Israélites. Et que là, alors, la colère de Dieu serait attirée sur Israël et il serait puni. Et c'est ce qu'il est arrivé à faire. Et bien voilà, c'est donc insinuer cette doctrine qui est la corruption, alors que Dieu avait dit que les Israélites devaient être fidèles, une Israélite devait épouser un Israélite, non, coucher avec les filles de Madian. Elles étaient petites, très belles, les Madianites, hein. Mais voilà, ils ont péché dans le désert. Et ce qui est arrivé aussi dans l'Église, au lieu de rester dans la pureté, on s'est mélangé. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. On a fait une alliance. La persécution au temps de Constantin s'est arrêtée et on a converti tout le monde. Hein. Tout le monde est converti. Tous ceux qui naissent dans le pays de Rome, soumis à l'Empire romain, se convertissent, enfin sont dits chrétiens sans être justement convertis. Alors, vous pouvez trouver qui est Balaam, mais le vrai Balaam se trouve dans les nombres. De sorte que je voudrais que vous ayez une connaissance profonde de toute l'Écriture, pour que dans les symboles qui sont donnés dans l'Apocalypse, vous sortiez seulement des symboles bibliques. Et puis après, si je prends toujours cette histoire d'Israël, Israël est délivré d'Égypte par la mer Rouge, merveilleuse, mais ensuite il traverse le désert, et dans cette histoire de Pergame, il est parlé aussi de quoi pour les vainqueurs? De la manne. Quand est-ce qu'ils ont eu la manne? Au désert, Exode et Nombre. Si vous voulez savoir ce qu'est cette manne, Dieu a nourri pendant 40 ans tout un peuple là où il n'y a pas de magasin, où il n'y a pas de possibilité de ravitaillement. Ils trouvaient leur nourriture par la manne. Alors, jusqu'au bout, nous savons que nous aurons aussi la nourriture. Et puis, je passe plus loin, nous arrivons à Thyatire. Et là, et qu'est-ce qu'il est dit? Il est parlé des œuvres de cette église de Thyatire. Il y a une église à Thyatire. Vous connaissez une femme qui venait de Thyatire dans l'Écriture? Lydie, et qui habitait Philippe, mais qui était marchande de pourpre de quelle ville? De la ville de Thyatire, et qui a été une grande amie de l'apôtre Paul, et qui a beaucoup aidé. C'était une marchande, une commerçante, qui avait la tête sur les épaules et les pieds sur la terre, mais le cœur dans le ciel. Une païenne convertie, la première européenne convertie. C'est quelque chose. Alors, elle s'appelait Lydie, mais vous avez ça dans le 16 des Actes. Alors il est dit au verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. » Vous voyez, le Seigneur souligne toujours d'abord ce qui est bien dans ces églises, même s'il y a des choses à reprendre. « Et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières, mais... j'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse et qui enseigne mes esclaves. » Alors, vous avez là dans l'église de Thyatire, me semble-t-il, on peut y voir la royauté d'Israël. Quand le peuple est sorti du désert, ils ont conquis le pays de Canaan et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Un roi. Le premier roi a été qui? Saül. Il a eu quelques actions assez bien, d'éclat, mais il s'est corrompu. Lui, il est allé jusqu'à consulter les esprits, jusqu'à consulter les morts. Après Saül, qui est-ce qu'il y a eu? David, le roi selon le cœur de l'Éternel. Il a fait de grandes et belles œuvres. Il a vaincu Goliath et tout ce que vous voulez. Puis après ses premières œuvres, qui est-ce qu'il y a eu après David? Salomon, qui a mis vraiment la royauté à son sommet. Mais lui aussi, parce qu'il n'a pas veillé, Il a aimé beaucoup de femmes dans sa vieillesse. Il avait 60 ans, vous vous rendez compte, que il a 60 ans. Mais il avait 60 ans quand il est mort. Alors, mais il a aimé beaucoup de femmes, alors il était épuisé. Bon. Oui. C'est Madonna qui a dit ça, je l'épuiserai par le sexe. Bon. Oui, je sais aussi qui est Madonna. Alors, oui, elles savent qu'elles font ces femmes. Eh bien, le pauvre Salomon, qui avait eu tant de sagesse, qui avait écrit tant de choses, vous voyez, quand on ne veille pas sur soi-même, où l'on peut arriver, même David, le pieux David qui a écrit tant de beaux psaumes, pour un moment d'égarement, il a commis adultère et il est devenu un criminel. Il a tué, on fait tuer par main interposée Uri, le Héthien. Alors tout cela, Dieu le voit. Eh bien, au fond, on voit dans toute cette histoire cette dégradation. Et ce qui me fait penser qu'on peut toujours trouver dans l'Ancien Testament des exemples, là, la femme Jézabel, où la trouvez-vous? Qu'est-ce qu'il y a eu après Salomon? À cause des péchés de Salomon, le royaume s'est divisé. Il y avait un seul royaume, hein. Mais le royaume s'est divisé, le royaume du nord avec Jéroboam, le royaume du sud, Juda et Benjamin, avec le fils de Salomon, Roboam. Hein. Mais ensuite, alors, vous continuez cette histoire, et vous trouvez un Akab dans le royaume du nord qui épouse qui? Jézabel. Alors, Jézabel, qui aimait à se refaire la façade, hein, qui se grimait, qui se mettait tout au monde. Et quand je pense qu'on nous dit maintenant que pour évangéliser à Montréal, il faut s'en mettre partout pour attirer le monde. Et on incite les jeunes à, au fond, devenir des clowns. Pour attirer pour l'évangile. Mais est-ce qu'on n'est pas désaxé? Je ne vous dis pas que vous devez prendre une robe noire. Je ne dis pas que vous devez faire une longue figure. Mais soyez vous-même. Pourquoi vous grimez? Pour devoir vous laver après? Soyez vous-même. Vous croyez que le Seigneur se grimait? Où est-il le Seigneur? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer? Rien ne se fabrique dans l'Église. Tout est donné d'en haut. Tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a ni ombre de variation ni changement. On nous dit, oh mais les temps ont changé. Et lui, il a changé? Il s'est levé son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber sa pluie sur les justes et sur les injustes. Retournez vers le Seigneur. Moi, c'est peut-être mes derniers mots, c'est peut-être aussi ma dernière retraite, même si on en a prévu une pour le mois de novembre, même si on en prévoit plus ou moins pour l'année prochaine ou l'année 73, si on est encore là. Mais. Hein? Je me rajeunis. Je suis, vous voyez, heureusement, ils écoutent. Alors, j'ai la preuve qu'ils écoutent, parce qu'ils n'avalent pas tout ce que je dis. Alors, c'est bien. Et puis, ils savent me reprendre. Alors, c'est magnifique. Merci, magnifique. 73. 93. Rajoutez 20 ans. 20 ans, ça fait quelque chose. J'ai déjà dit quelque chose comme ça? 10 ans. Ça va plus bien. Alors, on retourne là chez Jézabel. En fait, l'histoire de Jézabel, vous la trouvez alors dans les chroniques et puis dans les rois. Et la pauvre Jézabel, comme elle a fini, mangée par les chiens. On l'a jetée par la fenêtre. C'est pas drôle. on n'a retrouvé que les paumes des mains. Mais, qui est-ce qui avait prophétisé ça? Élie, le prophète. Hein? Le prophète avait averti ça. Alors maintenant, vous avez, après cette église, vous avez Sardes. Et dans Sardes, et nous pouvons y voir justement, après les péchés d'Israël, Israël donc et Judas et Benjamin ont été emmenés en exil, mais Dieu a été aussi à Babylone, et il a fait remonter de Babylone, après les 70 ans qu'avait annoncé, quel prophète? Jérémie, mais alors il faut lire Jérémie aussi, c'est toujours Dieu qui règne. Il y a des épreuves, mais elles sont mesurées. 70 ans, au bout des 70 ans, il visite ce peuple et un reste, un résidu, vous retrouvez ça à travers toute l'écriture et spécialement dans les psaumes, un résidu remonte sous la conduite de qui? D'Esdras et de Néhémie. On reconstruit d'abord le temple et Jérusalem est reconstruite dans un temps de trouble. Le temple est reconstruit. Et alors, c'est un petit groupe, mais il est parlé de ce petit groupe dans l'Apocalypse au chapitre 3. Cependant, verset 4, dans cette église qui s'est mondanisée aussi, cependant à Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et le livre de vie, c'est aussi dans l'Exode que vous le trouvez dans l'Ancien Testament. Et je le confesserai son nom devant mon Père, vous voyez, c'est mon Père, et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, plusieurs ont vu dans l'histoire de ces églises, donc différentes étapes, Éphèse, le premier amour, Smyrne, l'église de la persécution, sous Néron, Dioclétien, tout ce que vous voulez, à travers tous les âges. Il y a beaucoup de consolation pour l'église, et c'est pour tous les temps, l'église persécutée. Dans Pergame, l'association du monde avec l'église, on signe un traité de paix, et c'est ça qui ruine le témoignage. Alors, s'insinue la fausse doctrine, une espèce de paganisation, et c'est qui attire avec le temps du Moyen-Âge où on est redevenu de plus en plus païen, et on a voulu construire de grandes églises, on a voulu défendre la cause chrétienne en brûlant les juifs et en faisant toute espèce de persécution et les croisades, et c'est pas que le Seigneur voulait, mais il y a eu ce réveil dans l'Église catholique d'abord, à un moment donné, quand il y avait les indulgences, il y a eu ce réveil de quelques-uns, les réformateurs qui ont protesté, d'où le nom de protestants, hein. Le matin ils protestent contre plus rien, n'est-ce pas, on est amalgamé à tout, mais c'était les protestants, les vrais, c'était des catholiques, si on veut voir ça comme ça, c'était des catholiques qui protestaient au nom de la vérité pour qu'on revienne à l'Église, qui redemandait au fond qu'on revienne à l'Évangile, comme Jean 23 l'a fait plus tard, dans une certaine mesure. Mais et le protestantisme, ben maintenant c'est un grand nom, il y a beaucoup de ministres protestants en France maintenant, mais sont-ils vraiment au Seigneur? C'est une religion, le protestantisme. Et il ne faut pas seulement être protestant, il faut être au Seigneur. Lui appartenir en propre et marcher en vêtements blancs. Il faut laver notre robe dans le sang de l'agneau. Mais évidemment, et c'est ce que le catholicisme reprochait autrefois, parce que maintenant il est pris lui-même aussi par cela, on disait les protestants, ce sont des rationalistes. Ils sont tombés dans le rationalisme, ils ne croient plus en rien. Et j'ai lutté contre cela pour montrer en quoi nous croyons. Non, mais je sais que mon père n'a pas voulu que je fasse une école de théologie en Suisse, parce que là, le doyen disait, à la fin de vos études, vous risquez d'avoir perdu la foi. Parce que on mettait tout en doute, c'était la raison qui dominait. Alors ça ne vaut pas la peine. Louange à toi, Seigneur Jésus, de nous avoir laissé ta parole que nous pouvons croire comme étant la vérité. Et alors, eh bien oui, dans ce temps de rationalisme du siècle dernier, du siècle précédent, il y a des hommes qui ont été suscités par Dieu et qui se sont réunis autour de la parole dans la plus grande simplicité. Ils avaient peu de force, ils étaient méconnus, mais ils n'avaient pas renié le nom du Seigneur. Et ce qui les caractérisait, c'était l'amour des frères. Ils s'aimaient les uns les autres. Alors pour moi, Philadelphie, c'est le résidu dans l'Ancien Testament qui avait conservé la parole de Dieu dans son cœur. Pouvez-vous nommer quelques-uns de ces gens qui attendaient la consolation d'Israël après les Maccabées? Anne, Siméon, Zacharie, Élisabeth, puis qui encore? Il y en a d'autres, Joseph, n'est-ce pas? Il y avait un résidu, donc, qui attendait la consolation d'Israël au sein de ce peuple juif quand le Seigneur Jésus est né. Et quand il est né, ils avaient gardé la parole de sa patience, cette parole qui était vraiment la prophétie, qui était le témoignage de Jésus que vous trouvez depuis la Genèse. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et toi tu la blesseras au talon. Annonce prophétique que le Seigneur serait atteint dans son humanité. Parce que le talon, c'est la partie qui touche la terre. Il n'a pas été atteint dans sa divinité, mais dans son humanité. Et quand le diable a cru triompher de Satan, il a eu la tête écrasée. C'est par la mort que Jésus a vaincu Satan. Il est entré dans le royaume de la mort et il a délivré tous les captifs de la mort, comme il l'est dit ailleurs. Alors, vous voyez, c'est seulement pour vous donner quelques jalons. Je n'ai pas la prétention de vous avoir dit grand-chose, mais pour vous montrer combien toute la Bible se tient et que vous pouvez, en méditant et en demandant au Seigneur, éclaire-moi, qu'est-ce que tu as à me dire dans ce passage de l'Ancien Testament, eh bien, vous pourrez aussi mieux comprendre le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas la force qui compte, tu as peu de force, mais tu n'as pas renié mon nom, et bien que nous puissions avoir ce caractère de Philadelphien. Puis alors quand vous arrivez à la dernière, Laodicée, eh bien, on est en plein dans Laodicée. Des églises, bien souvent, et ça me fait peur pour le Québec. Parce que maintenant qu'il y a eu un certain élan au point de vue évangélique, tout ce monde évangélique devient triomphaliste. Et c'est ça qui est dangereux. Parce qu'avant, vous étiez persécuté, soi-disant, aussi par l'Église romaine, et c'était vrai, j'admets tout cela, vous n'osiez pas lire la Bible, etc. Maintenant, vous pouvez lire la Bible, mais ce qui compte, c'est pas que vous deveniez anti-catholique, mais que vous ayez le témoignage de Jésus, et que ça attire ceux qui n'osaient pas lire la Bible. Si vous, vous l'avez lu, on doit voir les effets de cette lecture dans vos vie, et que ce ne soit pas une espèce de propagande religieuse faite par la radio, par la télévision, une propagande où on vous demande tout le temps de l'argent et encore de l'argent, où on vous dit les sommes que vous devez donner pour que ça marche. Il n'est pas question de cela dans l'Écriture. Alors, mes amis, oui, j'ai toujours peur de ces églises qui se glorifient, ils augmentent, et puis dans l'an 2000, on aura converti le monde. C'est de l'imbécilité, parce qu'il y aura toujours les nouveaux-nés. Et donc on ne croit pas aux prophéties non plus. Alors, Laodicée, c'est l'église qui se croit riche, enrichie, n'ayant besoin de rien. Elle ne connaît pas qu'elle est pauvre, aveugle et nue, puisqu'elle doit demander des gens du dehors, des gens du monde, pour qu'il y ait un peu de vie, bien souvent, dans nos milieux, comme si c'était ça la vie. On ne se tient plus devant Dieu, on n'attend plus de Dieu cette vie qu'il donne en plénitude. Alors, on s'associe au monde. Tu ne connais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. On le croit dedans, comme je dis dans le petit livre Le Christ inconnu, et il est dehors. Je me tiens à la porte et je frappe. Mais l'église de Laodicée le croyait dedans. Hein. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Alors là, je vois le moment où Jésus est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Des gens religieux. Qui, par exemple? Les pharisiens. Les pharisiens, qu'est-ce qui les caractérisait? Ils se croyaient riches, enrichis, n'ayant besoin de rien. Je te remercie, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, comme ce pauvre publicain, comme ce pauvre pécheur. Voilà la prière du pharisien. Et qu'est-ce que Jésus disait? Qu'est-ce qui a été justifié? Le publicain qui se frappait la poitrine en disant, Seigneur, sois apaisé envers moi. Ne nous glorifions pas, nous, dans les milieux évangéliques, de ce que nous sommes. Parce que si on nous regarde à la loupe, c'est un désastre. Et les nouvelles âmes converties ne viennent pas dans nos milieux parce qu'elles nous connaissent trop. Elles savent trop, au fond, quelles sont aussi nos misères. On a beau chanter tous les cantiques possibles, une fois qu'on ne chante plus les cantiques, c'est bien misérable. Alors, mes amis, le pauvre qui se trouve à Laodicée, est-ce qu'il peut quand même se convertir? Qu'est-ce que ces pharisiens qui s'est converti? Nicodème, hein, en particulier, hein? Mais qui encore? Saul de Tarse. Il a pu être pharisien, être sûr de lui, même persécuter Étienne, consentir à la mort d'Étienne, mais il a été sauvé. Et il est devenu celui qui pouvait être assis sur le trône du Seigneur. Ce qui est dit à Laodicée. Le Seigneur peut changer un Laodicéen. C'est ça, la grâce qui se glorifie vis-à-vis du le jugement. Au temps du Christ, il y a eu Saul de Tarse que Dieu a employé pour apporter l'évangile au monde. Donc jusqu'au bout, le Seigneur aura son témoignage dans l'Église. Alors c'est ce que je voulais simplement vous suggérer. C'était très compliqué. Je veux bien qu'il y a bien des ombres dans l'Apocalypse, mais nous pouvons avoir plus de lumière. Mais il y a une chose en tout cas que j'aimerais que vous ayez dans le cœur, c'est que vous devez, si vous voulez comprendre le livre de l'Apocalypse, connaître pas seulement des petites portions, mais l'Ancien Testament, et relire depuis la Genèse tous ces livres historiques est prophétique pour en être imprégné et vous dire que le Seigneur, vous pouvez le voir dans toute la Bible. L'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le Christ avant son incarnation. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus quand il se manifestait avant de prendre le corps qu'il a eu dans le sein de Marie. Alors nous arrivons à ça que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, afin de rendre l'homme de Dieu parfaitement accompli et propre pour toute bonne œuvre. Et c'est là le but de ces rencontres, qu'il y ait au Québec, non plus simplement des gens faisant partie d'un groupe ou d'un autre, mais des hommes et des femmes de Dieu qui aiment à se rencontrer, qui aiment à se parler l'un l'autre, non pas de certaines doctrines sur lesquelles peut-être on a des pensées divergentes, mais qui se rencontrent sur la personne de Jésus et de Jésus seul. Dieu notre Père, nous voulons te demander que cet après-midi, tu nous aies les uns les autres convaincus de la nécessité de reprendre le livre et d'en faire une nouvelle lecture en cherchant les correspondants que ton Saint-Esprit veut nous donner. Que nous ne laissions pas courir notre imagination, mais que nous retrouvions les textes et qu'à la lumière de ces textes, nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Nous te louons et nous te bénissons parce que ce soir, tu vas encore nous conduire même plus haut que ce que nous voyons dans le monde au sujet de l'Église pour nous montrer cet avenir du haut du ciel. Tu sais que souvent, nous regardons les choses de la terre et nous sommes effrayés. Donne-nous de monter plus haut et de te voir, Seigneur Jésus, diriger toute chose vers une fin qui sera la tienne et à la gloire de Dieu. Père Céleste, nous te prions pour les personnes que nous avons nommées devant toi. Nous te demandons d'étendre tes mains bénissantes et guérissantes sur elles, d'agir par ta toute puissance pour la jeune fille, pour la grand-maman, pour Madame Obu, pour tant d'autres aussi qui sont dans la souffrance. Nous les enveloppons dans nos cœurs. Nous te prions pour tous les membres de nos familles. Nous te prions pour nos propres problèmes afin que tu nous donnes clairement ta solution, mais que nous n'ayons pas peur de suivre ta parole, car ta parole est la vérité. Elle nous sanctifie et elle nous donne la réponse dont nous avons besoin en Jésus-Christ. Amen. Alors, notre chère sœur Suzanne Colette m'a dit qu'elle vous attend.